À l'écoute de RFI, 4h en temps universel, il est 6h à Kiev. Et 5h à Paris, le journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Arthur Ponchelet et à tout à l'heure. Et bon réveil à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. Matinée spéciale sur RFI. Nous serons tout à l'heure en direct de Kiev autour d'Andréane Mellard. Rendez-vous à 6h10, temps universel. Nous serons aussi dans quelques instants près de Kharkiv avec le reportage d'Emmanuel Chaz et en Pologne, confronté à l'afflux de réfugiés ukrainiens. Nous serons aussi à Berlin dans ce journal. Au lendemain des élections législatives allemandes, les conservateurs de la CDU sortent grands vainqueurs. L'extrême droite double son score et les sociodémocrates du chancelier sortant Olaf Scholz s'écroulent. En RDC, un collectif de rappeurs de la diaspora veut alerter l'opinion internationale sur le conflit dans l'est du pays. Le titre Free Congo cartonne sur YouTube grâce à Gradur, Youssoupha ou encore Nino. Enfin en France, garde à vue prolongée pour l'auteur de l'attentat de Mulhouse. Plusieurs de ses proches ont aussi été arrêtés. Sans surprise, c'est donc la CDU qui sort vainqueur des législatives anticipées en Allemagne. Les conservateurs en tête des élections avec 29% des voix, un tout petit peu moins que ce qu'annonçaient les derniers sondages. Mais une victoire large tout de même pour le parti de Friedrich Merz devant l'AfD, la formation d'extrême droite qui double son score depuis les dernières législatives. Alors que les sociodémocrates du SPD se sont écroulés, le chancelier sortant Olaf Scholz se voit sanctionner seulement 16% des voix, pire résultat électoral depuis la Seconde Guerre mondiale. Une déconfiture suivie au siège du SPD à Berlin par notre envoyé spécial Julien Chavannes.
La douche était glaciale sous la grande verrière du QG du SPD. La défaite était annoncée, mais elle est dure à encaisser pour les militants comme Larissa.
Pour le SPD, c'est plus mauvais que prévu, beaucoup plus mauvais. Je ne pensais pas que l'AfD allait obtenir d'aussi bons résultats.
Olaf Scholz a subi cette campagne express sans arriver à imposer ses sujets, plombé par la crise économique, impuissant face aux attentats et parasité par les ingérences américaines. Et ce n'est pas une éventuelle coalition avec la CDU qui rassure les sympathisants ici.
Ce n'est pas un espoir, car la CDU a déjà prouvé qu'elle pouvait voter avec l'AfD. Ils ne sont pas fiables. C'est un problème pour les personnes d'origine étrangère.
Le chancelier sortant reconnaît une défaite amère. Avant de laisser son fauteuil, il lance un avertissement à son successeur.
On doit se tenir à ce que tout le monde disait ces dernières années. Pas de coopération avec l'extrême droite. Le SPD doit garder ce cap et on espère que tous les autres vont faire pareil.
Olaf Scholz s'est éclipsé sans dire un mot sur son avenir. Julien Chavannes, Berlin, RFI.
Et la CDU de Friedrich Merz se charge désormais des alliés pour gouverner et promet de former une coalition au plus tard le 20 avril prochain. Les élections législatives allemandes, on y revient tout à l'heure. Édition spéciale à suivre à 7h15, temps universel, en compagnie d'Arnaud Pontus. Et puis une matinée décidément très spéciale sur RFI, puisque une heure plus tôt, nous serons en direct de Kiev, autour d'Andréane Mellard et de ses invités, à retrouver donc à 6h10, temps universel, à l'occasion des 3 ans de la guerre en Ukraine et du début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky, qui se dit ce dimanche prêt à quitter la présidence ukrainienne en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Réponse à Donald Trump, qui l'a récemment qualifié de dictateur. Volodymyr Zelensky qui veut rencontrer le président américain avant que ce dernier ne s'entretienne avec Vladimir Poutine. Tandis qu'en Ukraine, 3 ans après le début de la guerre, de nombreux habitants continuent de fuir dans les pays voisins, notamment en Pologne, qui ne voit plus d'un bon œil l'arrivée de réfugiés sur ses terres. Une main-d'œuvre ukrainienne pourtant importante dans la région industrielle de Basse-Silésie, à la frontière tchèque et allemande. Reportage à Wawa de notre correspondant Adrien Serla.
Dans son agence de traduction, Agnieszka travaille au contact des Ukrainiens au quotidien depuis 3 ans. Et comme une majorité de Polonais, elle ne cache plus sa lassitude face aux réfugiés.
Ils n'ont pas peur de formuler des exigences et ils montrent leur insatisfaction si quelque chose ne va pas dans leur sens. Et au bureau, on les trouve très capricieux avec nous. Selon moi, les allocations familiales devraient être réservées aux gens qui travaillent, que ce soit des Polonais ou des Ukrainiens. Le gouvernement a raison de vouloir arrêter de les donner aux réfugiés sans condition.
Chaque week-end, Johanna se joint à la communauté ukrainienne de Wawa qui confectionne des filets de camouflage pour ses soldats. La jeune Polonaise regrette l'instrumentalisation politique du sentiment anti-ukrainien.
Je trouve ça terrible que de plus en plus de populistes récoltent des voix en s'appuyant sur le rejet des Ukrainiens et des Ukrainiennes. La plupart de ce qui est dit dans la campagne n'a rien à voir avec ce que l'on voit ou expérimente dans nos interactions quotidiennes avec eux. C'est juste un argument de plus pour polariser la société polonaise.
À l'approche des élections présidentielles de mai, tous les principaux candidats proposent d'alléger, voire de suspendre les aides aux Ukrainiens sans emploi. Adrien Sarlat, Ouava, RFI.
Les 3 ans de la guerre en Ukraine, on y revient aussi avec le reportage d'Emmanuel Chaz près de Kharkiv et avec notre invité, l'écrivain André Kourkov, dans une dizaine de minutes. Guerre en Ukraine, sur laquelle reviendront aussi Emmanuel Macron et Donald Trump. Ce lundi, le président français se rend à la Maison-Blanche pour la première fois depuis le retour du Républicain. Le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron qui veut présenter des propositions d'action pour conjurer la menace russe et garantir une paix durable en Ukraine, selon ses mots. Il est arrivé hier soir à Washington et doit rencontrer Donald Trump tout à l'heure avant une conférence de presse commune en fin de journée. RFI 5h06 à Paris, 6h06 à Beyrouth. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah pendant 32 ans, tué en septembre dernier lors d'une frappe israélienne. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a promis de poursuivre la résistance à Israël dans un message publié pendant la cérémonie. Le Liban en a assez des guerres des autres sur son sol, a lui déclaré le président libanais Joseph Aoun au moment de la réception d'une délégation iranienne. Début du dialogue national en Syrie, une conférence de 2 jours pour parler de justice transitionnelle, d'une future constitution et de l'unité du territoire syrien. Alors que l'administration syrienne du nouveau président Ahmed al-Shara a conclu un accord avec les Kurdes, calmant les tensions entre les deux parties. Accord portant sur l'approvisionnement en pétrole des régions du nord-est vers Damas. Un début de solution à la crise énergétique que traverse le pays, Mohamed Erami.
Cet accord s'est conclu à un moment inattendu et surprenant pour la population du pays. Alors que les Syriens s'attendaient à ce qu'une guerre civile éclate entre la nouvelle administration et les Kurdes, en raison de leur refus de déposer les armes et d'ouvrir leur zone au gouvernement intérimaire, c'est tout le contraire qui s'est produit. Les deux parties ont conclu un accord pour l'approvisionnement en pétrole des régions du nord-est du pays vers la capitale Damas. Selon les informations obtenues auprès de sources gouvernementales, l'accord prévoit l'envoi de 150 000 barils de pétrole et 1 million de mètres cubes de gaz par jour pour une durée initiale de 3 mois, avec possibilité d'augmentation ou de prolongation ultérieurement. En plus d'améliorer les relations entre les Kurdes et la nouvelle administration, cet accord permettra à Damas d'atténuer la crise des coupures d'électricité qui s'est aggravée au cours de la dernière décennie grâce à la remise en service des centrales électriques du pays. La majorité des champs pétroliers et gaziers se trouvent dans les zones sous le contrôle des forces démocratiques syriennes situées à l'est de l'Euphrate. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila sort de son silence dans les colonnes du Sunday Times, journal sud-africain. Au pouvoir de 2001 à 2019, l'ex-chef d'État s'en prend frontalement à l'actuel président Félix Tshisekedi en dénonçant un régime tyrannique marqué par des violations de la Constitution et des droits de l'homme. Joseph Kabila qui accuse aussi le pouvoir en place d'être responsable de la crise sécuritaire marquée par la percée du M23 soutenue par le Rwanda dans les deux Kivu. Conflit sur lequel veulent alerter les artistes de la diaspora congolaise. Un collectif de rappeurs a sorti le titre Free Congo il y a 3 jours à l'initiative de Gradure. Déjà 1,5 million de vues sur YouTube pour le clip du morceau qui réunit aussi Youssoupha, Nino, Damso et Kalash Criminel. Eva Massi.
Des millions de morts au nord qui vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts.
Bien plus qu'une musique, un vrai cri du cœur. Dans Free Congo, 6 artistes dénoncent un génocide en cours dans le pays de leurs parents. Le rappeur Gradure a réuni Youssoupha, Damso, Nino, Josman et Kalash Criminel, tous d'origine congolaise. Ils posent chacun leur tour des paroles percutantes sur la souffrance des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Les paroles chantées en français sont sous-titrées en anglais, comme pour s'assurer de porter le message encore plus loin. En dessous du clip, on lit une indication. S'informer, c'est agir, et les fans, et pas que, y retrouvent des suggestions de documentaires à voir sur le sujet. Et c'est ainsi que Goma, Bukavu et toute la RDC sont désormais sur la scène du rap tricolore. Avec Free Congo, Gradure et ses compagnons nous rappellent que la musique et la notoriété peuvent servir à soutenir une cause, celle d'un Congo libre et prospère.
On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans caca, mais sans M23.
Explication d'Eva Massi. On termine ce journal en France où la garde à vue de l'assaillant de Mulhouse a été prolongée. Un homme au profil schizophrénique de 37 ans qui a tué à l'arme blanche un homme de 69 ans et blessé 7 agents municipaux. Deux membres de son entourage et son hébergeur ont aussi été arrêtés alors que le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Amélie Beaucourt.
Interpellé fin 2023, Brahim A, 37 ans, avait été condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme. D'après le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il avait ensuite été visé par une obligation de quitter le territoire. Il assure que les autorités avaient essayé à 10 reprises et sans succès d'obtenir un laissez-passer consulaire de l'Algérie. Il était soumis à une procédure d'assignation à résidence avec obligation de pointer tous les jours au commissariat, une mesure alternative au centre de rétention administrative. Selon le ministre, toujours, son nom figurait sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, un outil de surveillance créé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Il précise également qu'un expert judiciaire avait détecté un profil schizophrène chez Brahim A. Samedi après-midi, dans un quartier central de Mulhouse où il était hébergé, l'assaillant blesse des agents de stationnement avec une arme blanche avant de poursuivre sa route et de tuer un passant de 69 ans en criant « Allahu Akbar » à plusieurs reprises. Les policiers municipaux l'ont ensuite interpellé. Après le placement en garde à vue de trois de ses proches dimanche, le parquet national antiterroriste a ajouté à ses précédents chefs d'accusation l'association de malfaiteurs terroristes.
Amélie Beaucourt du service France de RFI et puis un mot de football, le choc en stock en Europe. Choc qui n'a pas tenu toutes ses promesses en première ligue anglaise, Manchester City qui n'a pas fait le poids face à Liverpool. Les Reds de Mo Salah foncent vers le titre de champion, victoire 2-0 avec un nouveau but de l'Égyptien. Liverpool qui a désormais 11 points d'avance sur Arsenal en tête du championnat. Bien plus animé, Lyon-PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1, remporté 3-2 par les Parisiens. Nouveau but d'Ousmane Dembélé et doublé pour le Marocain Achraf Hakimi. Paris toujours invaincu en championnat. Paris qui compte 13 longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille. RFI, il est presque 5h12 ici à Paris. Restez bien avec nous, l'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guèze.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, l'Ukraine en ce jour d'anniversaire. RFI qui se mobilise pour les 3 ans de l'invasion russe. Nous serons en direct de Kiev tout à l'heure, autour d'André Anne-Mellard et de ses invités. Mais pour l'heure, vous entendrez l'auteur ukrainien Andrei Kourkov qui publie notre Guerre quotidienne, journal de guerre qu'il raconte ce matin à Arnaud Pontus. Nous serons aussi à Izium, non loin de Kharkiv, sur la ligne de front où s'est rendue notre correspondante Emmanuelle Chaz. Loin de l'Ukraine, nous partirons à la rencontre de l'artiste cubain Raoul Paz, invité d'Olivier Roger. Avant nos rendez-vous habituels, le conseil santé et le choix musical des programmateurs de RFI. Mais pour l'heure, on retrouve Andrei Kourkov. Donc il y a 3 ans jour pour jour, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une guerre éreintante, usante sur le front, mais aussi à l'arrière. Une guerre documentée dans un journal de bord par l'écrivain Andrei Kourkov, sûrement l'auteur ukrainien le plus connu à l'international. Célèbre pour son livre Le Pingouin, publié dans 43 langues. L'artiste de 63 ans n'a jamais quitté le pays malgré la guerre et il publie Notre guerre quotidienne, journal entamé le 1er août 2022, achevé le 22 avril 2024. Andrei Kourkov qui est ce matin le grand invité d'Arnaud Pontus.
Bonjour Andrei Kourkov.
Bonjour.
Il y a 3 ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Quel souvenir gardez-vous de cette journée du 24 février 2022 ?
On est réveillé à 5h du matin par les 3 explosions derrière les fenêtres. On était à 2 avec ma femme. Et pendant 40 minutes, j'ai essayé d'accepter l'idée que c'est déjà la guerre en grande échelle. Psychologiquement, c'était très difficile. J'étais paralysé, c'est-à-dire.
Oui.
Je ne pouvais pas croire que c'est possible dans le 21e siècle. Bombarder les villes, bombarder le pays.
Dans votre journal d'une invasion, hein, vous dites que vous êtes à ce moment-là incapable d'accepter cette réalité. Est-ce que 3 ans après, vous avez fini par accepter la réalité de cette guerre ?
Oui, en plus, comme beaucoup des Ukrainiens, j'ai adopté ma vie à la guerre. Je comprends beaucoup mieux comment on survit pendant la guerre, comment on voyage sans avion, 3 ans sans avion, c'est comme une éternité.
Votre vie aujourd'hui, elle est totalement différente de la vie d'avant la guerre, d'avant 2022.
Bien sûr, bien sûr. Aussi, les pensées sont différentes, le comportement est différent.
Qu'est-ce qui a changé le plus profondément en vous ?
J'ai perdu le sens des valeurs des choses matérielles. Je sens que tout que nous possédons, c'est-à-dire notre appartement, notre maison dans la campagne, nous ne sommes pas les propriétaires. C'est la guerre qui est propriétaire de nos immeubles et tout dépend de la guerre, qu'est-ce qui va passer. C'est très difficile de penser sur l'avenir.
Andrei Kourkov, dans notre guerre quotidienne, vous racontez de l'intérieur, hein, cette guerre, les bombardements, la peur, les coupures d'électricité, la vie à la lueur des bougies, la solidarité, l'esprit de résistance. Comment est-ce que les Ukrainiens font pour tenir depuis aussi longtemps, depuis 3 ans et plus ?
Oui, c'est plus fatigant,
plus difficile.
Il y a maintenant 3 Ukraines, on peut dire, parce qu'il y a Ukraine des réfugiés qui se trouvent à l'étranger, et peut-être beaucoup de ces gens resteront à l'étranger. Il y a 6 millions des Ukrainiens déplacés qui habitent dans les régions étrangères pour eux, pour gens comme moi qui encore habitent chez moi, chez eux, c'est une moitié du pays, oui, c'est un peu plus facile, mais c'est toujours la roulette russe parce que chaque nuit, on ne dort pas, les grandes villes ne dorment pas, et les gens le matin, après la nuit, avec des alertes, des sirènes, il part pour le travail, il essaye de mener le même style de la vie qu'auparavant.
Et c'est possible de vivre comme avant?
C'est impossible, bien sûr, c'est très stressant.
Est-ce que vous croyez encore que l'Ukraine gagnera? C'est ce que vous écrivez à la fin de notre guerre quotidienne, hein. Je crois encore que l'Ukraine gagnera. J'ignore tout simplement combien de temps cela prendra.
Je ne sais pas combien de temps ça va prendre,
oui.
Mais en fait, si Ukraine perd cette guerre, la guerre va continuer en Pologne, en Lituanie. C'est-à-dire que la Russie ne va pas s'arrêter.
Merci Andrei Kourkov d'être venu
sur
RFI. Merci
à vous.
Bonne journée.
Merci. L'écrivain Andrei Kourkov, invité d'Arnaud Pontus, entretien à retrouver et à réécouter sur notre site internet www.rfi.fr. La guerre en Ukraine, sur le terrain, direction Izioum, non loin de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Izioum libéré il y a plus de 2 ans, mais la ligne de front se rapproche à nouveau. Alors que de nombreux bâtiments ont été détruits pendant les combats et que la ville est toujours cible régulière de bombardements, les milliers d'habitants craignent pour leur vie mais choisissent de rester malgré le danger. Reportage de notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Lorsqu'on arrive à Izioum, après environ 2 heures de route de Kharkiv, la première chose que l'on remarque sur la droite de la route est le cimetière de la ville et à côté les fosses communes dans lesquelles 447 corps torturés de civils en majorité et de soldats avaient été retrouvés lors de la libération de la ville par l'armée ukrainienne en septembre 2022. Depuis, l'occupation russe a cessé, mais les bombardements continuent. Le 4 février dernier, 6 personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées lorsqu'un missile russe s'est abattu sur un centre administratif. Sacha, un survivant d'une 50aine d'années, raconte.
C'est ma voiture, nous étions arrivés à l'heure au travail.
Vous travaillez ici?
Oui.
Okay. À l'administration?
Dans l'administration, oui, et j'ai vu l'alerte aérienne, je venais de rentrer et nous avons été emportés par le souffle de l'explosion. J'ai couru et j'ai dit « Père, père, es-tu en vie ?» On était vivants. Je lui ai dit « Sortons d'ici ». Les fenêtres, les portes, tout était sans dessus-dessous, nous sommes sortis. Plusieurs personnes sont sorties et beaucoup étaient blessées. Parmi eux, je ne connaissais que Vitya, un ouvrier. Il était venu de Kupiansk au début de la guerre. Sa fille l'avait emmené. Il s'était enfui à cause de la guerre.
Malgré la proximité de la ligne de front, désormais à moins de 50 km, et la présence accrue de militaires dans la ville, Izioum reste un lieu de vie pour des milliers de personnes. Des cafés, des magasins, des transports en commun continuent de fonctionner. Anatoly, 30 ans, est gérant d'un café-épicerie. Ce restaurant, ce bar, ce café, ça fonctionne comment?
Normalement, il y a des gens qui viennent acheter des trucs, de temps en temps.
Et vous avez un générateur pour l'électricité?
Oui, il y a un générateur. Si on a une panne d'électricité, on le branche et tout fonctionne.
Est-ce que vous pensez partir ou pas du tout?
Eh bien, c'est une question difficile. Je comprends que c'est particulièrement dangereux d'être ici cet hiver. Mais je ne veux pas partir. J'ai grandi ici toute ma vie. C'est ma ville natale. Mais ma mère et ma sœur viennent tout juste de partir pour l'Allemagne.
Alors que le bruit de l'artillerie se fait à nouveau entendre à Izioum, beaucoup de civils n'ont pas les moyens financiers pour partir. Ils craignent une nouvelle occupation russe, mais préfèrent rester chez eux que d'envisager une vie d'exil ou de déplacer à l'intérieur même du pays. Emmanuel Chaz, Izium, RFI.
À les 3 ans du début de la guerre en Ukraine, on y revient tout au long de la journée sur RFI. Nous serons en direct de Kiev juste après le journal de 6h, temps universel. Vous retrouverez André de Mellard et ses invités de 6h10 à 7h, temps universel pour notre édition spéciale. Mais pour l'heure, il est 5h20 ici à Paris. Et loin de la guerre, partons à leur rencontre d'un guarijo chic, un chic paysan venu de Cuba nommé Raúl Paz, guarijo chic. C'est le titre de son 14e album, le plus français des Cubains, qui est rentré chez lui il y a 15 ans, après de longues années d'exil. Il a choisi de vivre à la campagne, ce qui imprègne son œuvre. Raúl Paz, qui a redécouvert le répertoire des musiques paysannes et qui s'est confié à Olivier Roger.
Yo no sabría caminar bien lejos, si no veo reflejo de tus ojos llenos.
Bonjour Raúl Paz.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très très bien, très bien.
Guarijo chic, c'est le paysan chic, c'est le titre de votre nouvel album. Un titre qui me semble pas tout à fait anecdotique. Ce guarijo chic, c'est vous ou c'est Cuba?
En fait, pour moi, vraiment, c'est la place que j'aimerais bien qu'il y a Cuba. La musique cubaine, c'est cette musique, grande musique cubaine qu'on connaît. Parfois, on se rend pas compte que ça vient toujours de la campagne. La campagne a une force énorme, comme pas mal des pays. La musique la plus connue aux États-Unis, c'est la country, au Mexique, c'est le corrido. Mais à Cuba, la musique campésine, elle est un peu oubliée. Donc je me sens, maintenant j'habite en pleine campagne, et je me sens cet interlocuteur un peu entre cette musique des campagnes actuelles et le monde. C'est pour ça ce nom de Guajiro Chic.
Justement, cette musique de campagne, vous l'avez redécouverte en rentrant à Cuba? Ou alors, est-ce qu'elle a toujours été là de par votre héritage familial?
Ça a été toujours là parce que mes parents, surtout mon père, ils aimaient beaucoup la musique de la campagne. Mais je me suis rendu compte d'un concert à l'Olympia. On trouvait pas une première partie. Mon producteur à l'époque, il m'a dit, tu sais, Bob Dylan, quand il est venu à l'Olympia, il n'y avait pas première partie. Il a fait sa propre première partie. J'ai dit, ah, ça me va. Donc j'ai fait ma propre première partie. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire, j'ai dit, mais je vais faire la musique de la campagne naturellement. Et j'ai fait une première partie qui était très bien. C'était même mieux que mon concert après, où j'ai chanté des chansons que j'écoutais quand j'étais enfant de la musique de la campagne. Donc elle était toujours à moi, mais je ne les savais pas vraiment. Et là, ces retours, pour moi, c'était important de revenir aux sources, de voir qui j'étais, qui étaient mes parents, la musique qu'ils écoutaient dans ces régions de l'île. Et c'était une redécouverte en même temps.
Yo pensé alejarme, pero me olvidé, que poco decide siempre la razón. Yo no soy tan simple como te conté.
Alors justement, cette musique, Guarira, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que cette musique est toujours vivante dans le patrimoine cubain? Est-ce qu'elle est au contraire en voie de disparition?
Elle est très vivante, mais elle est cachée. Et toute référence à la musique de la campagne à Cuba, c'est une référence avec des vieux codes, où les gens ils sont habillés de façon trop traditionnelle, ils parlent d'une façon. Et ça, c'est dommage, parce que je crois qu'il y a une modernité dans la campagne. C'est la base de beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi la base à Cuba de la musique. Tous les grands groupes, tous les grands orchestres ou les grands interprètes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, tout vient de la campagne.
Vous avez un immense respect pour cette campagne et pour les gens qui l'habitent. J'ai lu quelque part dans votre biographie, à un moment, vous dites, les paysans sont capables de nous parler en alexandrin d'une problématique sociale. Ça, c'est extraordinaire. C'est vous avez un respect pour ces gens
énormément
chic, effectivement.
Oui, parce que finalement, ils sont les vrais chics. Ils sont rudes, ils travaillent dans la campagne, ils ont des mains impressionnantes et tout ça. Comme j'ai dit, ils peuvent contrôler un taureau. Et en même temps, ils se mettent après à la guitare, ils sortent des mélodies hallucinantes et ils improvisent avec une poésie qui savent même pas l'écrire. Quand ils l'écrivent, ils font beaucoup de fautes, mais ils sont capables d'aller chercher une poésie hallucinante. Et j'ai compris que je viens de là, en fait. Tout mon intérêt pour la poésie, tout mon intérêt pour la mélodie, elle vient de là. Et ça, je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. Mais elle vient de là, cette façon simple, mais très belle de faire les choses.
Merci beaucoup pour cette
interview. Merci à vous.
La cosa no es que tú pienses y que yo diga. La cosa no es que repita lo que tú decidas. Las cosas nunca son, ni serán, ni terminan como debían. Si falta la razón ni la sabiduría, se estruja el corazón como en el agua fría y no hay más solución.
Le Cubain Raúl Paz a retrouvé en concert à Paris le 18 mars au New Morning si vous êtes à Paris. Et réécoutez si vous le souhaitez sur notre site internet www.rfi.fr.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et Caroline Paré reçoit le professeur Christophe Cellier pour parler des maux de ventre.
Professeur Christophe Cellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service d'hépato-gastro-entérologie et endoscopie digestive à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. En termes de troubles digestifs, quels sont les symptômes qui doivent pousser à consulter impérativement ?
Alors, les douleurs digestives, c'est un symptôme extrêmement fréquent, hein, qui peut avoir de multiples causes, des causes graves et des causes bénignes. Alors, les symptômes qui doivent pousser à consulter, à voir un médecin, c'est essentiellement s'il y a ce qu'on appelle des symptômes d'alarme. Par exemple, au niveau digestif haut, quand vous avalez et que ça bloque, là, c'est inquiétant, ou quand vous allez avoir des troubles digestifs avec des saignements dans les selles, qui peuvent par exemple venir au niveau de l'anus, et si ça se réveille, quand vous avez des pertes de poids, quand ça survient la nuit en période de sommeil, ça c'est des symptômes qui peuvent nécessiter de voir un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de troubles graves. Et puis, il y a aussi les antécédents dans la famille qui peuvent faire qu'on consulte plus vite. Par exemple, si dans votre famille, il y a eu des cancers du côlon ou d'autres cancers précocement dans la vie.
Merci professeur Cellier. Aujourd'hui dans Priorité Santé, l'actualité des maladies émergentes, Mpox, Marburg, Ebola, mais aussi la grippe aviaire, plusieurs flambées épidémiques qui sont loin de faire les gros titres 5 ans après la pandémie de Covid-19. On va parler du suivi de la surveillance de ces périls infectieux à l'heure des bouleversements politiques aux États-Unis qui rebattent les cartes de la santé mondiale. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté. Merci Caroline Paré et à tout à l'heure. Nous on va terminer en musique avec Les Bons Comptes, chantés par les bons amis Jupiter et Oquest avec Flavia Coelho. De la légende congolaise Jupiter Bokonji, les bons amis Benoît Vandenbroek et Grégory Lesca m'ont aidé à préparer cette demi-heure d'information. Dans quelques instants, on compte sur Nemo en Peace pour l'info africaine.
Ce lundi, journée spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Andréane Mellard.
Et pour l'occasion, RFI sera à Kiev en direct avec nos invités, nos correspondants. On va parler de la guerre meurtrière, toujours en cours, de l'état de la population et surtout de la paix. Est-elle possible ? Sur quelle base et à quel prix ? Rendez-vous ce lundi 24 février dès 6h temps universel sur RFI.
Ce mercredi sur RFI,
c'est pas du vent,
Anne-Cécile Bras.
Nous allons remonter le temps pour vous raconter comment, dans les années 60, les Occidentaux ont brutalement expulsé des cultivateurs de leurs terres pour préserver une nature soi-disant vierge et sauvage en Afrique. L'historien Guillaume Blanc est notre invité.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.